Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Une fois par mois, nous recevons une femme d'inspiration. Et cette semaine, nous en recevons une, mais vraiment d'inspiration, une femme extraordinaire. Donc, je cite. Elle était et est encore la première girl with the dragon tattoo. Tirée du livre « Sois-toi et t'es belle », publié aux Éditions de l'Homme. Vous l'avez sans doute reconnue. Il s'agit du mannequin international Eve Salvaille, belle et rebelle. Mais tout de suite avant de lui parler, nous écoutons « Femme de rêve » de Claude Dubois.
Solitaire dans la foule comme en forêt. Femme de rêve, femme d'espoir heureux. Comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre?
Avec nous cette semaine, une femme d'inspiration, femme sensible, audacieuse, entière et artiste. Mannequin international, DJ, compositrice, designer et auteur du livre « Sois-toi et t'es belle ». Eve Salvaille, bonjour et bienvenue à Terre de Femmes.
Bonjour, merci, merci Marc.
Alors, Eve, j'ai lu ton livre « Sois-toi et t'es belle », je l'ai dévoré, j'ai adoré, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, il ne s'agit pas nécessairement ou uniquement de ton métier de mannequin, mais on apprend en fait tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, ta vie depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui, et ça fait en sorte qu'on se sent près de toi. Et on se sent c'est comme ça, tu nous permets d'entrer dans ton intimité. Et moi, j'y ai vu, à travers toutes ces lignes-là, une femme sensible. Donc, déjà, dès l'enfance, tu étais, comment je pourrais dire, en symbiose avec la nature, à Matane, la mer et tout ça.
Oui.
Est-ce que c'est là que vient ta sensibilité?
Ben, je pensais que je la cachais bien, hein. je sais pas si c'est de là. Je pense que c'est peut-être un peu de ça, de ma tante, puis d'avoir grandi vraiment dans un paradis de la nature, mais aussi le fait que je sois artiste. Je suis vraiment très in touch with my emotions, comme ils disent en anglais.
Mm-hmm. Et déjà, tu avais appris à observer, donc à observer ton père, en fait, qui était artiste aussi, à observer toutes les gens autour de toi, ton frère, la nature, ta grand-mère. Toutes les personnes qui ont gravité autour de toi avaient une importance et tu les observais.
Oui, je les observais puis j'apprenais beaucoup d'eux. J'étais comme une éponge un peu. On l'est tous quand on est enfant, mais je pense que moi, j'étais fascinée par toutes les facettes de mes grands-parents, de mon frère, que je voyais comme un super-héros, tu sais, mm-hmm. invincible. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais...
Oui. Et tu expliquais que ton père, c'est lui, en fait, qui a commencé à prendre des photos de toi quand tu étais jeune. Et pour toi, c'était... Tu te fondais un peu avec l'objectif.
Oui, il y a une connexion bien spéciale avec l'objectif que j'ai découvert que j'avais, mais plus tard. Puis maintenant, avec le recul, si je regarde en arrière, je m'aperçois que dès qu'il y a un objectif qui est pointé sur moi, je le sens, je ne sais pas pourquoi, ni comment... Puis j'ai comme une espèce de symbiose avec la caméra. Puis bon, mon père, en plus étant photographe, ben j'ai pu pratiquer beaucoup ce talent-là que j'avais déjà. J'ai pu le perfectionner vraiment, puis approfondir là-dedans, puis vraiment triper sur l'image.
Est-ce qu'on peut dire que quand l'objectif se concentrait sur toi, c'est comme si... L'objectif était comment d'aller chercher le fond de ton âme. Tu t'ouvrais complètement. Tu devenais vulnérable.
Moi, je le vois effectivement, mais moi, je le vois de l'autre côté. Je suis capable de percer l'objectif. J'ai vraiment l'impression, quand je regarde à travers un objectif qui est pointé sur moi, que je m'en vais jusqu'au film. Bon, moi, je suis du temps du film, là.
Oui.
Mais que je m'en vais jusqu'au fond de la caméra, puis beyond that, tu sais, bien en arrière de ça. Il y a quelque chose que, mais effectivement, en faisant ça, cet exercice-là, ça va des deux barres, là.
Oui. oui, absolument. Et chaque fois, en fait, que la caméra se pose sur toi, est-ce que tu vas chercher autre chose ou c'est comme une espèce de répétition d'une fois à l'autre ou d'un cliché à l'autre ou c'est différent tout le temps?
J'attends le clic. Puis je change de position et mes yeux, tout mon état d'âme va changer complètement entre chaque clic. Puis je pense que les acteurs sont capables de faire ça. Moi, personnellement, acting, c'est pas nécessairement mon truc, mais pour la photo de mannequin, j'attends chaque clic, puis je change complètement entre chaque clic. Là. C'est certain que je vais rester comme ça avec cette allure triste. Jusqu'à temps que j'entende le clic. Et des fois, il gosse sa caméra, puis moi, je reste comme ça, là.
Okay.
Dans la même état d'âme. Jusqu'à temps que j'entende le clic. OK, là, on change.
Et toi, tu appelles ça une allure triste?
Oui.
OK. Moi, je voyais plutôt comme du sérieux, un peu de froideur, comme si tu, justement, fermais tes émotions, parce qu'à un moment donné, tu dis, je gardais à l'intérieur parce que je pouvais pas, justement, trop démontrer mes émotions. Moi, je voyais ça plutôt comme une fermeture. Toi, tu associes ça à une tristesse?
Ben, pas une tristesse, mais chaque clic, je vais laisser transparaître à travers mes yeux, puis mon visage, puis la position de mon corps, je vais laisser transparaître une émotion, qu'elle soit triste ou joyeuse. Mais c'est sûr que toutes mes vraies émotions, je pouvais pas en parler.
Mm-hmm.
C'était plus pour la caméra. Mais quand je parle de garder mes émotions en dedans, c'est plus en rapport avec sur les shows ou quand je parlais avec les couturiers, les photographes.
Mm-hmm.
C'est que les gens normaux vont au bureau de 8 à 5. Nous, on était comme ça 24 heures sur 24.
Mm-hmm.
Il fallait constamment contrôler tout, le dos droit, le cou étiré, être poli, s'asseoir d'une certaine manière, les mains sont d'une certaine... Tout est contrôlé 24 heures sur 24.
Oui. Et entre les défilés, est-ce que tu arrivais à te rebrancher sur Eve Salvaille?
Oui, c'est ça. Durant le maquillage, quand je me fermais les yeux pendant les longues heures de maquillage, je me sentais comme si je faisais de la plongée sous-marine parce que c'est un lieu qui est très, très sécurisant pour moi. Donc, je me ramenais à la plongée sous-marine avec mon père, puis être en dessous de l'eau, c'était comme une méditation. Je fais encore ça maintenant. Si on me parle durant un maquillage, c'est très rare que je réponde très vite parce que je suis loin. Je suis vraiment à 300 pieds en dessous de l'eau, là.
Et c'est quoi cette sécurité-là d'être sous l'eau? C'est, moi, je sais pas, je trouverais ça envahissant. Toi, tu trouves ça sécuritaire? C'est-à-dire personne ne peut t'atteindre?
C'est ça. Il y a quelque chose de... C'est sûr qu'en dessous de l'eau, c'est un autre monde. Pour les gens qui ont fait de la plongée sous-marine, ils comprennent c'est quoi. Il y a quelque chose de vraiment spécial en dessous de l'eau parce que c'est un autre monde. Tout doit être très... tranquille, doucement. On n'a pas les contraintes du trafic, on n'a pas le cellulaire qui sonne, on n'a pas, il y a rien de l'important, c'est de bien respirer, de faire des mouvements, de faire ses paliers en remontant, puis mais tout est très calme.
Oui, c'est comme une forme de méditation.
Exactement, c'est de la méditation transcendantale.
Sous l'eau. Et cette grande sensibilité-là que tu avais déjà dès le jeune âge, t'as décidé quand même de jouer un personnage, et tu parles souvent de tes personnages dans ton livre, et j'ai trouvé ça fascinant parce que t'es vraiment consciente, hein, parce qu'on joue tous et toutes des personnages dans notre vie, mais très peu d'entre nous le savons, ou savons à tout le moins quand on change de personnage, mais toi, c'est très, très clair. Et quand t'étais adolescente, ton premier personnage... je pourrais dire marquant, ça a été de devenir punk.
Oui.
Et ça, pour moi, ça veut dire, oui, je me coupe, je joue à la dure. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu le vivais?
Exactement. Mais je pense qu'il y a quelque chose pour se protéger là-dedans. Le porc-épic en tant que tel, ou la rose, n'est pas un animal ou une fleur qui est dure en tant que tel. C'est un animal, le porc-épic, fragile. C'est juste, puis il est slow en plus. Tu vois un porc-épic marcher, c'est pas vite un porc-épic. Là, ça n'a rien de pour se défendre autre que les épines.
Ouais.
Fait que moi, c'était comme si je me mettais dans un suit de porc-épic.
OK, donc, oui.
Pour cacher, on parlait de la sensibilité il y a 2 minutes. Ben, oui. C'est peut-être pour protéger ça, pour cacher ça derrière.
Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà été attaquée justement dans ta sensibilité quand tu étais jeune?
Moi, je pense qu'on l'a tous été. Hein?
Mm-hmm.
On est tous sensibles, on a tous des petits points qui ont fait mal, des choses qu'on se rappelle de notre enfance qui ont fait très mal, puis qu'on garde comme une blessure jusqu'à... Tu sais, puis qu'on fait très attention à pas se mettre les pieds dans les plats là-dessus. Puis ce qui m'a fait mal, moi, n'est pas nécessairement quelque chose qui t'a fait mal, toi, dans ta jeunesse, mais t'as tes propres blessures que tu traînes comme une valise. Fait que c'est ça, c'est pour protéger ces...
Oui. Est-ce que encore aujourd'hui, tu te permets d'être sensible ou tu restes encore à te protéger ou est-ce que tu as fait un peu la paix avec ça?
Ben oui, c'est un exercice qui est très difficile, puis je pense que tu disais tout à l'heure que tout le monde a des personnages, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais on a tous ça pour se protéger. Mais c'est très difficile de se rendre vulnérable. On le voit quand on est en amour avec quelqu'un, on se rend vulnérable avec cette personne-là. On lui montre tous nos côtés, même ceux qu'on trouve moins beaux, puis ceux qui sont plus sensibles.
Oui.
Mais c'est un exercice extrêmement difficile que j'essaie de faire le plus possible aujourd'hui. Je te dis pas que je suis bonne là-dedans encore, mais je commence à me dévêtir de beaucoup de personnages,
ouais,
justement, avec la sobriété et tout ça.
D'accord. Et reste avec nous, Eve. On va, après la pause musicale, on va parler de Eve Salvaille, la femme audacieuse. Reste avec nous.
She always has a smile from morning to the night. the perfect poster child that was once in my life. A door made out of glass, all her friends think that she's great. But I can see through it all and she's about to break. Remember last year when you told me to always stay here, never leave me. The light from your eyes made me feel like we were dancing in the moonlight. Remember last year when you told me these will be lifelong stories. The light from your eyes made me feel like we were dancing in the moonlight. Forget to smile, never get a break from this life in denial. A door made out of glass, all her friends think that she's great. But I can see through it all and she's about to break.
C'était Moonlight de Grace Van Der Waal. Alors, nous sommes toujours en compagnie d'Ève Salvaille, mannequin, artiste, auteur, auteur du livre, entre autres, « Sois-toi et t'es belle ». Donc, Ève, on revient à un de tes personnages, c'est-à-dire la femme audacieuse. Donc, si on te dit, toi, que t'es pas capable de faire quelque chose ou t'es pas game, alors là, c'est comme si on venait d'ouvrir une porte et tu te lances.
Oui.
C'est comme si tu aimais les défis, tu sais, t'aimes. Oui. C'est un peu ce qui s'est passé avec le concours clin d'œil, c'est-à-dire tes amis t'ont dit t'es pas capable ou t'es pas game, puis tu as dit ben allez hop, je le fais. Et c'est comme ça en fait que t'as commencé dans le métier avec le concours clin d'œil.
Exactement, avec le concours clin d'œil, puis c'était vraiment, j'avais tellement pas le look de l'emploi, j'avais tellement pas l'attitude de l'emploi, puis je connaissais pas grand-chose à la mode non plus, fait que tout d'un coup, je me retrouve mannequin à gagner le concours clin d'œil. Que c'est qui s'est passé là?
Et puis pour en rajouter, t'es partie seule à Tokyo.
Ben oui, je suis partie à Tokyo toute seule, ce qui n'était pas vraiment... Tokyo, c'est quand même une ville très, très safe. Là, c'est pas un endroit qui est... Il y a zéro violence à Tokyo. Il n'y a pas de vol, etc. Mais c'est ça, je suis partie prendre ma chance d'aller faire le mannequin là-bas toute seule. Puis j'ai eu une petite mésaventure croquante.
Ah oui, qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, je suis arrivée, ils m'ont oubliée à l'aéroport. Donc, tout coûte très, très cher à Tokyo, donc je me suis retrouvée seule à l'aéroport avec zéro argent. Puis j'étais une jeune fille de 19 ans qui avait jamais vu un viaduc dans sa vie. Là. Je sortais tout droit de ma tanne. Fait que c'était tout un choc.
Et c'est ça.
J'ai survécu.
T'as survécu, oui, puis t'as très bien survécu, si bien que c'est pendant ce voyage-là qui a quand même duré 2 mois.
Oui.
Que tu as décidé de te faire raser la tête. Et Là, c'est beau ce que tu dis dans ton livre. Tu as appelé ton père pour demander si c'était une bonne idée.
Oui. Puis, ce qui est drôle, c'est que oui, mon père, c'est un artiste, donc il m'a répondu que c'était une idée extraordinaire. Il trouvait ça vraiment. Mais c'est fou, hein? Je m'étais jamais aperçue que mes parents étaient aussi excentriques, aussi artistiques. Avant l'âge adulte, à commencer à parler à des amis de leurs parents à eux, puis comment eux, ils réagissaient à des choses comme ça, que normalement, c'est la honte totale, tu ne feras plus ça.
Oui.
Mais récemment, j'ai fait refaire ce tatou-là et j'ai appelé papa pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait.
Oui, c'est ça, parce que tu t'es fait raser dans un premier temps, puis après, tu t'es fait tatouer le lendemain, c'est ça?
C'est ça. L'idée, c'était d'être la première mannequin rasée et mon père trouvait ça un peu banal. En tout cas, de fil en aiguille, j'ai eu l'idée de faire le tatouage sur la tête. Puis quand je lui ai présenté l'idée, il trouvait ça extraordinaire parce que c'est un peu comme un canevas. Je suis le canevas, puis l'œuvre d'art est sur ma tête. Donc, c'est quand même... Puis il en était très fier aussi. Quand je suis revenue de Tokyo, il avait invité ses amis pour montrer sa fille qui avait un tatouage sur la tête. Mais tu sais, en 1991, c'était choquant.
C'est ça, ça prend de l'audace, ça prend, je dirais même pas du culot, mais en tout cas la volonté d'être avant-gardiste ou d'être la première.
Ben c'est ça, c'est pour ça que je dis, je sais pas pourquoi je suis comme ça.
et le logo que tu as, c'est un logo, c'est pas un logo, mais le tatou que tu as, c'est un dragon. Et le dragon japonais, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi tu as choisi ça?
C'est une œuvre d'art qui était sur un magazine de... Moi, je faisais la cérémonie du thé dans une galerie d'art pas très loin de mon appartement. Puis avec ce que j'appelais mes Japanese parents, mes parents japonais. Et puis eux autres, ils avaient un magazine avec une œuvre d'art en bronze qui venait d'être retrouvée en Chine. Elle avait 800 ans et ils ont pris les mesures exactes de cette œuvre d'art-là qui sont les mesures de mon tatouage.
OK. Et qu'est-ce que ça représente, le dragon japonais? Est-ce que c'est comme une espèce de protection, un porte-bonheur?
Je pense que ça représente la bonne fortune.
Ah, OK. Puis ça te plaisait, toi? Tu t'es dit, tiens, je pars dans le métier.
Non, je l'ai su plus tard. Des années plus tard, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais que le dragon signifie la bonne fortune. c'est vrai.
OK. Et c'est comme ça que, tu as été nommé l'anticonformiste dans le domaine de la mode. C'est-à-dire que tu as été vraiment la première à...
J'étais la première,
oui. Oui, puis ça n'a pas été facile. Hein? Tu as surmonté ça parce que tu avais de la difficulté à avoir des contrats, justement, à cause de ça.
Bien, j'ai été refusée par des agents au début parce que, tu sais, on se ramène en 1991, c'était que les gens de gang, les gens de prison qui avaient des tatouages, surtout sur la tête, surtout une femme, c'était très mal vu. Mes agences étaient certaines que j'allais plus travailler avec ce look-là, là, c'était fini. Moi, j'arrivais comme « Tadia, on travaille!
» Mais ça a quand même été difficile à Montréal, hein, parce que tu avais de la difficulté à avoir des contrats. Donc, tu es partie à Tokyo, puis après, tu es partie en France. Donc, c'était pas évident dans ton propre, dans ton propre pays.
C'était pas évident, mais c'est ça. Ça a été, je suis même pas partie ailleurs. J'ai essayé de travailler ici pendant plusieurs... Moi, puis je me suis retrouvée à pas avoir d'argent, fait que j'ai commencé à travailler dans un club.
Oui.
Et puis, Jean-Paul Gaultier avait vu des photos que j'ai fait avec Carles Fard, puis voilà, ça a été en un millième de seconde, je suis devenue reconnue, puis là, tout à coup, c'était cool d'avoir un tatou sur la tête, c'était cool d'être comme ça.
Est-ce que tu étais contente d'avoir persisté? J'imagine que tu as eu des moments de regret quand tu as vu que tu avais de la difficulté à avoir des contrats à cause de ton audace, de ta détermination. As-tu eu des regrets?
Non.
Non?
Non, c'est drôle, mais peut-être parce que j'étais jeune, j'avais moins peur. Mais maintenant, je repense à ça, puis je suis habitée de peur à l'idée de faire un move comme ça. C'est complètement très audacieux. C'est à l'encontre de tout, pas de mes valeurs, mais à l'encontre de tout ce que la société impose.
Oui.
Donc, j'aurais pu être dans le trouble beaucoup plus que ça. Regarde.
Oui, puis t'avais pas envie, t'as pas eu envie de te faire repousser les cheveux ou de pas du tout. Tu allais dans cette voie-là.
Non, j'avais pas froid aux yeux du tout. Puis c'est ce que j'explique un peu dans le livre, c'est que je ne sais pas pourquoi, si on me dit non, je suis en train de faire un très gros projet maintenant que je vais garder secret, mais on va en
OK.
entendre parler très bientôt. Puis c'est la même chose. On me dit non pendant les 3 dernières années, puis je pousse encore aujourd'hui, on me dit non encore. Puis je ne sais pas pourquoi. Parcours atypique, folle d'empêche.
Je pense que quand on dit non, j'ai l'impression que ça te motive, puis ça te
Oui.
dit, tiens, je vais leur prouver ou je vais continuer. Si on me dit non, ça veut dire que j'ai une bonne idée. Est-ce que c'est un peu ça que tu penses?
Ah, peut-être, mon Dieu, que tu viens de toucher un filon, toi. J'avais jamais pensé à ça comme ça.
Ben, je sais pas, c'est ce qui monte quand je t'entends. De toute façon,
C'est
tu
bon.
étais à contre-courant, tu l'es encore et probablement que tu seras toujours parce que c'est dans ta personnalité. Si bien que durant les défilés, tu sortais quand même des sentiers battus. Tu expliques que tu faisais 2 tours au lieu d'un, rendu au bout de la passerelle, puis tu mettais quand même du Ève Salvaille malgré les contraintes et ce qu'on te demandait ou ce qu'il fallait que tu fasses.
Ouais, j'étais un petit peu punk dans ce temps-là. Aussi quelque chose que je repense, ça devait être un de mes personnages, le petit punk qu'on parlait tout à l'heure, mais j'étais assez marginale, disons.
Oui.
Aujourd'hui, je ferais pas ça. Tu vois, je repense à ça, puis je suis comme, oh mon Dieu.
Ah non, tu l'en ferais pas, non?
Non.
Bon,
Pas
ben,
des niaiseries comme ça, non.
en 2004, en parlant justement d'audace et de marginalité et d'être avant le courant, contre-courant, tu étais avant-gardiste aussi parce que tu as été parmi une des premières femmes DG à New York. DG. DG.
Oui, il y avait pas de femme DJ à New York. Ben, il y en avait, mais c'était très, très peu. Puis celle qui existait n'était pas très bonne.
OK.
C'était juste pour le look. Il y avait, je me rappelle, la toute première année, je n'ai pas parlé dans le livre, mais il y avait 2 filles qui jouaient le torse nu. Puis ils jouaient, là, ils étaient engagés partout dans tous les clubs, mais ils étaient pourris.
Ben, écoute, reste avec nous, Ève, c'est fascinant. Ton histoire, je l'adore. Alors, reste avec nous, on revient tout de suite après la pause musicale.
Écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Vous aimez nos émissions, vous pouvez les écouter en allant sur le site internet de Canal M, sur vusetvoix.com, sur marthesaintlaurent.com et en balado-diffusion également. En deuxième partie de l'émission, Ève Salvaille, Belle et Rebelle, notre femme d'inspiration cette semaine, demeure avec nous. Donc, de retour après la pause musicale, nous écoutons Patrice Michaud. À qui l'aura?
Tu crois ça, l'amour à distance? Un vol de quel oiseau déjà? De prendre les absences, moi qui ne migre pas, je suis pas trop aller-retour, pas souvenir d'avoir voté pour. C'est fragile. Comme un pied sur le lac, au début du printemps, paraît que l'on a seulement qu'une vie chaque. et mon piano perd ses dents. J'entends parfois tes je t'aime au fond de la radio AM. Et dis-moi, dis-moi si tu restes. Choisis la nuit où tu t'en iras. C'est pas loin d'une chanson, de gestes. Voici l'amour et c'est à qui l'aura. Ça m'arrive encore de passer mon petit champ. Moi je connais un génie qui trouve ça long tout seul dans sa lampe. Et dis-moi, dis-moi si tu restes. Choisis la nuit où tu t'en iras.
Nous sommes de retour avec notre invité, le mannequin Eve Salvaille, auteur du livre « Sois-toi et t'es belle ». Je dis « belle et rebelle » car t'es une femme entière, Eve. C'est ce qu'on découvre dans ton livre. T'es dans un bloc. T'es dans un bloc, on peut dire soit entière ou intense. Qu'est-ce que tu préfères?
Oh, je préfère entière, c'est un beau compliment.
Écoute, à la page 12... Tu dis « Toute ma vie, je me suis créé des personnages pour survivre, pour éviter de me dévoiler, pour être forte, pour ne pas avoir peur, pour établir une distance. » Et tu dis « J'ai adoré cette montée d'adrénaline dès le début sur le divan de ta grand-mère. » Donc, tu es vraiment dans tout ce que tu touches, tout ce que tu vis, tu le fais toi, tu le rentres en toi.
Oui. Mais je pensais que tout le monde faisait ça, non?
Non, pas nécessairement.
OK.
Pas c'est nécessairement. Bon, non, il y a plein de gens qui se disent non passionnés. Toi, t'es à fond quand tu fais quelque chose, tu le fais à temps plein et t'as besoin de l'adrénaline.
Ben oui, ou bien je la crée, ou bien... mais oui, c'est sûr. C'est ça, je pense que ça fait partie un peu aussi de la dépendance... aux drogues, à l'alcool, etc., c'est une forme de dépendance, l'adrénaline. Donc, on voit souvent des sports extrêmes, les gens qui aiment ce genre de trucs-là, c'est peut-être pas tout le temps, mais ça ressemble à la dépendance.
Et est-ce que c'est ça qui t'a justement conduite vers la dépendance, justement, aux drogues et à l'alcool, ou c'est seulement le métier qui exigeait ça?
Mais je pense que on l'a ou on l'a pas, la dépendance en nous. Puis, c'est sûr que le métier n'a pas aidé parce que c'était presque mal vu de ne pas consommer. Quand j'étais, en fait, dans les années 90, dans le monde de la mode, c'était quasi mal vu de ne pas consommer des drogues et de l'alcool.
Est-ce que tout le monde consommait?
pas tout le monde consommait, mais c'était... Si tu consommais pas, faudrait pas que tu en parles trop fort. Parce que j'ai même perdu des opportunités parce que je consommais pas. Donc, où il y a des choses que je consommais pas, en fait, je devrais dire.
Ah, OK. Oui, parce que tu expliquais que chaque show avait sa sorte de drogue selon qu'il était 9 heures le matin ou 8 ou 9 heures oui. le soir, c'est ça?
Donc, Chanel est toujours très tôt le matin, je pense que c'est vers 9h, 9h30. Donc, nous, comme on arrive 3h à l'avance, je pense que c'est même plus tôt que ça, je pense que c'est à 8h30. Anyway, comme on arrive 3h à l'avance, je dropais de l'ecstasy vers 3h du matin pour qu'à 5h, je commence à piquer quand j'arrive backstage, puis qu'à 8h sur le stage, je sois à mon plein potentiel de high.
Mm-hmm. Ça fait une vie assez mouvementée, mais ça passe quand on est entière comme toi. C'est-à-dire, on se remplit quand même de cette vie-là qui déborde finalement, qui n'a pas un temps d'arrêt.
Oui, mais c'est ça. Ça prend. Je pense que j'ai été très chanceuse d'avoir une constitution pas physique, mais émotionnelle ou mentale pour pouvoir comme dealer avec tout ça, d'avoir eu mes personnages, puis d'avoir eu toute cette façon de penser-là qui est un peu comme dans le rêve. Tu sais, c'est comme si je regardais un film quand je vis ma vie, surtout dans la carrière de mannequin. Je pense que j'aurais peut-être pas été capable de passer à travers la carrière si j'avais pas eu cette espèce de vision-là.
Mm-hmm. Et tu dis, en fait, quand tu as commencé, pas quand tu as commencé à consommer, mais la première fois où tu as eu cette énergie que tu appelles explosive, c'était quand tu étais jeune puis que tu avais trouvé des ampoules de smelling salt dans la trousse de tes parents.
Ah non, mais c'était quelque chose, ça. Je m'en rappelle, puis j'ai l'eau à la bouche, mais tu sais, c'est...
Comment ça se présente? Qu'est-ce que c'est? Ça venait comment?
Ah ben c'est des petites ampoules en verre qui sont comme dans un filet pour pas qu'on se casse, pour pas que le verre cassé nous rentre dans les doigts. Okay. Puis on casse cette petite ampoule-là. Puis il y a une espèce de vapeur qui sort de ça. Si on fait un Google, on voit beaucoup de sportifs qui font ça. Ça n'a pas l'air d'être... Mais c'est un rush de même pas 30 secondes. C'est vraiment... normalement, c'est utilisé pour réveiller les personnes qui sont tombées évanouies.
OK.
Mais si t'es pas évanoui, ça donne une espèce de rush de un peu comme un popper, là. T'as la patate qui part, puis wouh!
OK, ouais. Et toi, t'avais quel âge quand t'as découvert ça?
Ah, oh, j'étais jeune, non, j'étais vraiment jeune.
Quoi, 4 ans?
Avoir, 5 ans? Je sais pas. J'étais toute petite, là. J'étais vraiment toute petite, là, dans ces eaux-là, là.
Puis tu dis que t'as été, en fait, t'as été adoptée, donc, dès la naissance, tu t'es... ta mère t'a donné, t'as retrouvé ta mère.
Oui, j'ai retrouvé ma maman. Et... J'ai été la voir récemment, puis je lui ai apporté un...
Ah, oh, tu la vois encore?
Oui.
OK. Et
elle était très jeune, ma maman.
Et oui, et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu te garder, j'imagine.
Exact.
Mm-hmm. Et tu disais que cette dépendance-là que tu as souffert, et maintenant ça fait 4 ans que tu ne consommes plus... venait peut-être de ta famille, je dirais, naturelle, où il y avait de la dépendance?
Oui, il y avait beaucoup de dépendance dans ma famille biologique, donc c'est, en tout cas, souvent c'est génétique, mais c'est ça, j'ai l'impression que j'ai su plus tard que mon père biologique avait des problèmes d'alcool, puis que les parents de ma mère ne boit pas. Jamais bu non plus.
OK. Mais ses parents buvaient.
Son père était alcoolique. Je pense que sa mère était pas alcoolique, mais son père était alcoolique.
Mm-hmm. Et quand on est entière comme toi, puis qu'on décide d'arrêter de consommer, félicitations d'ailleurs, c'est tout un exploit, bravo.
Merci.
On remplace ça par quoi?
Ben, la spiritualité.
OK.
La spiritualité, la méditation, puis je suis dans un programme des 12 étapes, donc je fais les 12 étapes.
Oui.
Mais, tu sais, je le vois pas comme quelque chose dont je me félicite parce que, de un, c'est pour aujourd'hui, de un, c'est juste aujourd'hui. Je le vois pas comme 4 ans. Pour moi, c'est juste Aujourd'hui, j'ai pas bu. Je sais pas si je vais boire demain, mais aujourd'hui, j'ai pas bu, j'ai pas fumé la cigarette, etc.
OK.
Puis, c'est pas vraiment par ma grâce à moi, c'est plus avec l'aide, justement, du programme des 12 étapes, avec ces gens-là qui m'ont aidé puis supporté puis qui m'ont dit, « Hey, moi, quand je ressentais cette affaire-là, ben je faisais telle chose, tu sais.
Mm-hmm. »
Puis
Et donc, la spiritualité et tout ce que tu vas chercher, en fait, dans les rencontres, tu réussis à remplir ce vide-là qu'il y avait à l'intérieur de toi avant?
Ben oui, il faut juste que je fasse attention de le remplir avec quelque chose de positif.
Mm-hmm. Et est-ce que c'est encore difficile pour toi aujourd'hui?
La cigarette, oui.
Ah oui, davantage?
La cigarette, c'est le pire. C'est le pire. Écoute, j'ai parlé à des gens qui étaient héroïnomanes à côté, puis ils disent la cigarette, c'est le plus difficile.
Et ça, est-ce que tu as tout arrêté en même temps?
Non.
Ah, OK. Rassure-moi, parce que je me disais... Non, mais je me disais, Ève est audacieuse, puis elle est déterminée, mais là, je trouvais ça fort un peu.
Non, j'ai pas arrêté ça. Puis le café, je dois dire, la première année, je fumais en sein, s'il vous plaît, puis je buvais du café en sein, s'il vous plaît.
OK, oui.
J'ai bu des quantités industrielles de café.
Oui, tu remplaçais.
Ben oui, c'est ça. Là, tu venais de m'enlever une grosse affaire. Là, et je buvais un litre de vodka par jour. Ça, il faut que tu boives beaucoup. Puis souvent, là, je me levais la nuit pour boire.
Ah oui, ça, c'est vraiment addict. Et t'as arrêté parce que t'avais des problèmes de santé, tu pouvais plus continuer, en fait.
C'est ça.
Mm-hmm.
C'est ça.
Ben, écoute, Ève, reste avec nous. Après la chanson, on revient et là, on va parler de la femme artiste, c'est-à-dire tout ce que t'as fait en même temps et que t'es en train de faire et de ce que tu développes. Reste avec nous, Ève.
OK.
Nothing's gonna change.
comme blonde, get pressure. Alors, nous sommes toujours en compagnie de notre femme d'inspiration, Eve Salvaille, belle et rebelle, auteure du livre « Sois-toi et t'es belle ». Alors, Eve, parmi tous tes personnages, tu es aussi une femme artiste. On le nommait en début d'émission. Donc, tu as été DJ, tu as été également... Ben, tu as été actrice aussi. Tu as joué dans un film de Luc Besson.
Oui.
Le cinquième élément.
Dans plusieurs films, dans Prêt-à-porter de Robert Altman, Luc Besson, j'ai joué aussi dans d'autres petits films. Là.
Puis tu as failli jouer avec Woody Allen dans Celebrity?
J'ai failli jouer avec Woody Allen, exact.
J'en avais les larmes aux yeux, je me dis « Oh non, Woody Allen! » Moi, je l'aime beaucoup.
Puis,
puis c'est, finalement, ça n'a pas eu lieu parce que tu avais autre chose?
Moi, j'ai eu un gros contrat à Tokyo, dernière minute.
Et comment tu es arrivée au travail d'actrice? On est allé à toi ou toi, tu as décidé de jouer dans des films?
Non, ils sont venus à moi tout d'abord avec... je me rappelle plus si c'est Prêt-à-porter ou le cinquième élément qui est arrivé en premier, mais un des deux. Puis après ça, j'ai eu d'autres offres. Puis moi, je me suis dit, je vais l'essayer parce que c'est dans la... C'était artistique, peut-être que je vais aimer ça, tu sais.
Mm-hmm.
Finalement, j'aime pas ça.
T'aimes pas ça? Qu'est-ce qui te déplaît?
Je trouve ça trop... Un peu comme la chanson, j'aime pas ça. Je sais que je suis bonne en chanson, puis probablement que j'aurais été pas pire en acting aussi, mais je trouve que c'est trop me dévoiler. En fait, à ce moment-là, je trouvais ça.
Okay.
Donc, ça me gênait. Puis pourtant, sur une scène, si on parle de chanter, sur une scène, je suis hyper à l'aise. Sauf que dès qu'on me demande de chanter, je ne sais pas, je me sens comme dénudée tout d'un coup, puis je perds tous mes repères.
C'est étrange.
Oui, je sais, ça fait pas de sens, mais plusieurs choses à propos de moi ne font aucun sens. Donc,
moi, j'y vois des liens.
Oui,
absolument. Écoute, quand tu dis je chante et j'ai l'impression que je me dévoile, est-ce que tu as fait des cours de chant ou c'est naturel, ta voix?
Non, j'ai pas fait de cours de chant, non.
OK. Et comment tu es arrivée à la chanson?
Ben, j'ai toujours chanté depuis que je suis jeune, puis j'ai su plus tard que du côté de mon père, tout le monde chante très, très bien, donc ça vient d'eux. Mais j'ai toujours chanté, j'ai toujours adoré chanter, puis je sais que je chante bien. Mais puis j'ai une pas pire qualité de voix aussi, mais c'est ça, j'ai jamais exploité ni été très très loin. J'ai écrit des chansons, j'ai écrit une chanson avec Bryan Adams.
Oui, je m'en allais là. Qu'est-ce que tu as écrit?
J'ai écrit une chanson qui s'appelle j'ai rêvé mieux dans la tête. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Hey, c'est j'ai pas, gros plein de mémoire.
Non, mais c'est pas grave. Et vous l'avez chanté ensemble?
Non, on n'a pas pu le chanter ensemble. On l'a créé ensemble,
okay.
On l'a écrit ensemble. Puis plus tard, quand je l'ai chanté, « L'espoir de ton sourire, merci. » Et alors, « L'espoir de ton sourire », quand on a écrit ça, mais quand j'ai fait la performance de cette chanson-là, c'était pour une amie qui venait de décéder, puis Brian ne pouvait pas venir. Donc, un ami à moi, qui sonne un petit peu comme Brian, d'ailleurs, a chanté la chanson ici au Québec. Pour notre amie Amélie.
Et est-ce que tu composes encore des chansons?
Non, ça fait super longtemps que je n'ai pas composé de chansons.
Et est-ce que tu aimerais reprendre?
Je ne sais pas. Comme je dis, c'est comme si j'étais dénudée. J'ai beaucoup aimé écrire.
Oui, mais écrire pour les autres, ça te... non?
Non? Non, je ne pense pas. Ben, je trouve... Non, ben, je ne sais pas, peut-être.
Ben, tiens,
là, je pense déjà à Livre 2, c'est folle.
Tu penses à quoi?
Au livre numéro
2. OK. C'est toi qui l'as écrit, hein, ce livre-là?
Oui.
OK, c'est
super.
Tu le crois?
Moi, je ne le crois pas encore. Pince-moi.
Ah ben... Comment
non,
ça?
Sérieux.
Pourquoi tu ne le crois pas? C'est plein de... Comment je pourrais dire?
Je ne sais pas si j'étais capable. Je pensais... Au tout début, j'avais demandé à une amie de l'écrire avec moi, mais je ne pensais vraiment pas que j'allais être capable d'écrire un livre.
Et comment tu t'es... Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'as fait comme genre une journée à la fois?
Ben, je l'ai fait avec, je sais pas, j'ai essayé, mais c'est ça qui est aussi difficile parce que quand on écrit, on est toute seule à la maison.
Oui.
Puis là, on se dit, ça a l'air pas pire, tu sais, mais je l'ai pas laissé ma copine le lire. J'ai pas montré à mes parents, comme d'habitude, je montre tout à mes parents. Oui. J'ai pas montré à personne. Puis là, quand je l'ai dévoilé, le livre, quand il a été lancé, puis que les gens l'avaient dans les mains, là, c'est... Je suis un peu, je me suis dit d'un coup que c'est pourri, puis que je me disais tout ce temps-là que je suis bonne, mais que je... Tu sais, on sait pas.
Non. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là, Ève?
Je donne des conférences sur l'échec, la perception de l'échec. Et il y a quelqu'un qui m'a conseillé en relation avec les conférences et avec le sujet de mes conférences de faire un livre. Puis j'ai toujours voulu faire une autobiographie parce que je trouvais intéressant le fait que j'étais adoptée, née avec les fémurs disloqués, etc. Donc je me suis dit ça pourrait être le fun.
Ouais, c'est
de
pas,
faire les deux.
T'as pas eu une vie banale, hein?
Non, j'ai pas.
ça fait un bon livre. Il y a de la matière à faire un livre. Et dis-moi, oui. Les conférences que tu donnes sur, tu dis sur l'échec.
Oui.
Ça vient d'où? T'as-tu l'impression d'avoir échoué des choses dans ta vie?
C'est un ami à moi qui fait une série de conférences qui s'appelle Fail Camp. Donc, c'est le sujet, c'est l'échec. Puis c'est lui qui m'a approché avec cette idée-là il y a 3 ans maintenant. Puis j'ai ri de lui un peu au téléphone. Puis après ça, je l'ai rappelé. Puis j'ai dit, ouais, peut-être que ça serait un bel exercice. Je pourrais essayer. Tu sais, j'avais jamais donné de conférence. J'avais jamais écouté de conférence. Donc, je partais de zéro.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça. Fait que j'ai écrit une conférence sur ma perception de l'échec, puis c'est pour ça que je dis la perception de l'échec, parce que pour moi, j'ai pas eu d'échec dans ma vie, mais pourtant, aux yeux des autres, oui, j'en ai eu des millions, tu sais.
Oui. Ta dernière réalisation ou ton dernier angle vers le côté artistique, c'est créatrice de mode.
Oui.
Donc, tu t'es associée avec Pascal Labelle?
Exactement. Un jeune couturier d'ici qui a tellement de talent, ce jeune homme. Ben, moi, je dis jeune homme parce que je suis plus vieille, là, mais... il est probablement vieux pour d'autres, mais en tout cas, cet homme est très talentueux. Puis, on a fait une ligne de vêtements que j'avais déjà commencé à créer avec ma belle-sœur Linda, puis qui avait été finalement un échec total.
Okay.
Et puis, je me suis rendu compte plus tard que Linda et moi, on avait besoin de la troisième personne à notre équipe, qui était Pascal Labelle. Puis okay. C'était super le fun de faire ça parce que d'avoir fait la mode pendant 20 quelques années, tout d'un coup, je voyais qu'est-ce qui se passait en arrière. J'avais jamais le temps, moi, de voir les créations puis comment on crée. Je les mettais puis je repartais au prochain fitting.
Oui.
Mais,
donc, tu as créé des hoodies. Tu as créé des hoodies. Oui, pour cacher ta tête qui t'a tout le temps froid.
C'est ça, exactement, parce qu'on perd 80% de notre chaleur corporelle à travers la tête. Donc, j'ai tout le temps froid, moi, de toute façon. Fait que je me suis dit, je vais créer ça. Au pire, ça va me faire des hoodies pour moi.
Oui, avec ton tatou, des dragons.
Avec le tatouage, exactement.
Puis, est-ce que ça se vend bien?
Ben, c'est pas si pire. C'est sûr que c'est un item de luxe, donc ça a été moins... Mais l'exercice est quand même intéressant, puis je pense que c'est une belle... J'ai aimé l'expérience.
Oui.
Je pense pas que c'était fait dans le but de... Comme c'est fait sur mesure,
oui.
C'est le fun parce qu'on se retrouve pas avec des millions de hoodies qui vendent pas. T'sais.
Ah, OK, je comprends. Donc, il faut les commander.
On en a vendu, mais oui, il faut les... Ben, on les commande sur mesure dans le sens que c'est pas tout le monde qui a ma shape. Là, on va pas te dire les vraies affaires. Fait que je me suis dit, ça serait le fun que maman en avait un, etc. Là. Mm-hmm. C'est que tous les types de corps pouvaient fitter dans notre hoodie.
Superbe. Écoute, t'avais dit un jour à Jean-Paul Gaultier que t'en avais marre, hein, que les gens crient ton nom dans les défilés et tout. Puis t'avais répondu, quand tu l'auras plus, ça va te manquer. Ces gens crient ton nom parce qu'ils t'aiment, Ève. Et dis-moi, aujourd'hui, est-ce que ça te manque qu'on ne crie plus ton nom?
Non, mais j'avoue qu'il avait raison parce que tout de suite, T'sais, au tout début, ça fait un choc. Là. Je me suis retrouvée de ça à rien. C'est comme si on venait de foutre le bric-à-bras d'un coup de sec.
Oui, je comprends.
Fait, oui, je me suis, j'ai eu beaucoup de difficultés à transférer après la carrière de mannequin, à me réajuster puis à faire des choses d'une façon normale.
Oui, pour toi, avec ton côté artiste. Ben, merci, c'est tout le temps qu'on a, Eve Salvaille. Merci infiniment. Alors, Eve Salvaille, auteure du livre « Sois-toi et tes belles » publié aux Éditions de l'Homme. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je remercie toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez et je vous souhaite une agréable semaine en vous laissant sur une citation de Coco Chanel. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.